Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, ces deux-là étaient faits pour être amis. À ma droite, droit dans ses bottes, intègre, réfractaire au système et au red carpet, n'est pas allé chercher ses deux Césars, Gérard Lanvin, belle gueule burinée du cinéma français, sorte de fils spirituel de Lino Ventura. À ma gauche, Olivier Marchal, flic pendant 12 ans, ce qui donne une puissance inégalée au polar qu'il filme. 36 quai des Orfèvres, Les Lyonnais, Carbone, bientôt Bronx, et aux séries bien sûr qu'il imagine, Braco par exemple, entre autres, c'est lui. Tout cela avec des chagrins à exorciser derrière la noirceur de ses films de truands. Alors, ils se sont retrouvés pour une comédie alerte, bien troussée, bien écrite, magistralement jouée, Papy Sitter de Philippe Guillard, qu'ils avaient dirigé d'ailleurs dans Le Fils à Joe, comédie qui est en salle depuis mercredi.
Europe 1.
Ça méritait quand même de faire le point sur mille choses. Bonjour les garçons,
bonjour
Gérard, bonjour Olivier.
Bonjour.
Je suis ravie, vraiment ravie que vous soyez là. Alors Gérard Lanvin, Olivier Marchal, en fait, du making-of d'un film peut naître un autre film. On se souvient tous du Fils à Joe qui avait scellé en 2011 votre amitié devant les caméras de Philippe Guillard. Or, c'est dans les coulisses du Fils à Joe qu'a germé l'idée de faire de Gérard, les années venant bien sûr, un grand-père aux valeurs non négociables, ancien capitaine de gendarmerie, qui imagine qu'on peut diriger le monde comme une caserne. Cet homme-là, il existe bien, celui qu'on va découvrir dans Papy Sitter. C'est le père du réalisateur, c'est
tout
ça?
Tout à fait, oui, tout à fait. Dans cette période de tournage, on vivait ensemble dans la même maison. Il y avait le père de Philippe, qui prêtait main à différents exercices de régie sur le film. Et c'est un capitaine de gendarmerie à l'ancienne. Il est veuf depuis très longtemps. C'est un vieux garçon plein de manies particulières, assez intéressantes à regarder. Et j'avais dit à Philippe, écoute, un jour, quand je serai un peu plus vieux, j'aimerais bien jouer ton père. Voilà, si tu peux y penser. Voilà, il l'a fait. Il a commencé à écrire un scénario avec un homme de ce genre-là, ancien capitaine de gendarmerie, veuf, etc. Psychorigide. Et ça tournait autour d'une petite fille et du personnage. Donc, ça ressemblait un petit peu trop au Fils à Joe.
Voilà. Et il s'est dit que finalement, dans les comédies, les duos antagonistes, bah, ça marche toujours magnifiquement. Donc, voilà. Il a fallu imaginer le deuxième grand-père. Et là, je me retourne vers Olivier Marchal. S'il est né, ce deuxième grand-père, bah, c'est un petit peu la faute de Robert De Niro, qui a joué il y a 3-4 ans dans Dirty Papi, dans Mazer. Et puis, c'est beaucoup dû, en fait, à votre envie à tous les deux de vous retrouver dans une comédie loin des flingues. C'est ça?
Ouais, c'est-à-dire que Philippe voulait quand même obtenir la caution du public un petit peu plus jeune. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a choisi par rapport à Gérard qui a vieilli, qui a beaucoup vieilli. Et donc, voilà. Non, mais
c'est professionnel.
Mis à part. Non, voilà, on avait très envie de se retrouver. Et moi, j'ai été tellement heureux de refaire ce film avec Gérard, avec Philippe, tous les trois. Là, voilà, moi j'ai dit oui, j'avais même pas lu, j'ai dit oui avant de lire le scénario, de toute façon. Je savais que ça serait bien.
Parce que c'était avec Gérard. Ouais. Alors jouer ensemble, vous qui vous connaissez si bien depuis l'année 2011, où sont sortis simultanément, je le rappelle, Le Fils à Joe et Le Gang des Lyonnais, bah, c'était une idée formidable, mais encore fallait-il trouver l'argument pour vous opposer, quoi. Mmh. Et là, miracle, vous êtes les deux grands-pères totalement dissemblables de la même adolescente qui doit passer son bac. Les parents partent à l'étranger, vous avez donc une mission que vous n'appréhendez pas du tout, mais alors pas du tout de la même manière. C'est ça.
Voilà, on doit faire passer son bac à notre petite fille. Cette petite fille, on la connaît pas bien parce que moi, on m'évite dans la famille parce que je suis chiant comme la mort. Et Liv, lui, il joue un personnage qui est très loin de France. C'est un mec qui voyage beaucoup, qui monte des boîtes de nuit dans des pays un peu improbables.
Ouais.
Il a pu s'offrir cette maison dans laquelle vivent le couple qui est en fait mon fils et sa fille.
Ouais.
Et qui a une fille d'ailleurs qui s'appelle Camille. Et
joué par Camille Aguilar,
voilà, ce couple,
cute et patente.
Voilà, ce couple, oui, ça c'est sûr, parce qu'il faut une actrice qui soit capable d'aller au milieu de nous deux
mais
et
ça,
mettre le rythme.
Mais c'est ça, il faut du tempérament
voilà, et
pour
en comédie,
affronter
faut
quand même Gérard Lanvin, Olivier Marchal.
Voilà, c'est ce qu'elle a fait sans problème.
Donc, Papy Sitter tourne autour d'un trio, le trio le plus mal assorti qu'on puisse imaginer, car Camille, votre petite fille, donc, se contrefiche complètement, bien évidemment, d'avoir son bac, et tout oppose les deux grands-pères qui vont se faire la guerre. Une guerre gentiment déclarée, mais une guerre.
Ouais. Ben, c'est-à-dire que le personnage de Gérard, qui est André Morales, capitaine de gendarmerie,
Morales,
coincé du cul, de débat était dans cette maison pour s'occuper d'elle, et ce qui n'était pas prévu, c'est que l'autre grand-père déboule chez lui, donc moi je fais un espèce de givré cinglé complet, qui est à l'opposé du personnage de Gérard, et les deux vont se faire une guerre de papy, pour essayer d'obtenir l'amour de leur petite fille.
Il paraît que vous avez pris 9 kilos pendant le tournage, Olivier Machal, à cause de la cuisine du Sud-Ouest, à cause de Gérard.
À cause de la cuisine de Philippe et de Gérard qui boit beaucoup. Donc, comme j'aime pas le laisser seul, j'ai picolé aussi pas mal.
On sait que vous, normalement, c'est l'orange pressée. 9 kilos, ouais. C'est pas facile à masquer quand on tourne pas forcément dans la chronologie.
Bah, disons que je les ai pris très vite. En une semaine, et je les ai gardés, oui. Et ça se voit dans le film, j'ai la cabine avancée, comme on dit, j'ai une espèce de bide qui est énorme. Et tout. Mais bon, après, je les ai perdus, mais ça allait bien au personnage en même temps, parce que voilà, c'est un mec qui fait pas attention à lui, qui picole, qui mange, qui baise, qui baisse pas.
En fait, il faut aller voir le film pour savoir davantage. Gérard Lanvin, Olivier Machal, dans la vraie vie, est-ce que vous êtes tous les deux grands-pères?
Moi, je suis grand-père, oui.
Ouais.
D'une petite année, ouais, 10 ans.
10 ans.
Ouais.
Et pas encore Olivier.
Non, moi je suis papa de 4 enfants, mais je souhaite pas l'être vite, grand-père.
Pour quelle raison ?
Parce que je me suis occupé de mes 4 enfants, je leur ai donné le biberon, je me suis levé la nuit, j'ai fait les couches, les bains, tout ça, j'ai relayé à la maman, vraiment j'y tenais beaucoup.
Ouais.
Et que une fois que les enfants sont sortis de la toute petite enfance, ça m'intéresse moins. Donc, je m'en occupe, hein. Je suis un papa aimant, j'adore mes mômes, on a des super rapports, mais je suis pas très
pressé. Mais ça vous permettrait, être grand-père, de replonger dans une nouvelle petite enfance de vos petits-enfants.
J'ai pas envie, là, maintenant, je suis trop vieux maintenant.
Vous voulez mettre sur pause un petit moment?
Ouais, un petit peu.
Il tremble, avec l'alcool qu'il a bu, il ferait tomber par terre, c'est pas le sien, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, c'est ça.
Gérard Lanvin, grand-père, vous qui avez une petite fille de 10 ans, c'est une mission que vous avez l'intention de mener à bien, quelle manière?
Pour conserver l'intérêt de la petite fille en question, il faut être fou. Il faut avoir l'envie d'être des grands-parents pas ordinaires. Donc j'ai la chance d'avoir Jennifer comme femme, et qui, elle, est complètement barge. Donc,
Vous n'êtes pas un grand-père ordinaire. Déjà, elle voit son grand-père à la télé, sur grand écran dans les salles de cinéma.
Oui, mais
ça
elle a l'habitude. Elle voit même son papa sur scène, parce que c'est un des grands bluesmen français.
Oui.
On fait des tournées ensemble,
grand
etc.
Grand guitariste de réputation internationale, votre fils aîné.
C'est plus ça qui l'importe. Elle a dépassé le truc. Oui. Ce qu'il faut, c'est, quand elle vient chez nous, avoir la possibilité de l'intéresser, quoi. C'est-à-dire d'aller chez des dingos ou pas. Parce que sinon, les mômes, ils s'en vont avec leur tablette, et puis ils vous laissent tranquille, et vous n'avez pas de rapport avec eux. Donc nous, on a des rapports avec elles qui sont suffisants pour qu'elles s'intéressent à nous encore.
On retrouve tout de suite Gérard Lanvin et Olivier Machal à l'affiche d'une comédie vraiment épatante qui fait revivre cette tradition qu'on aime tant, nous, dans le cinéma français, les duos antagonistes, vous savez, comme il y en a eu avec Depardieu et Pierre Richard, ou Brel et Lino Ventura. En tout cas, à tout de suite avec Olivier Machal et Gérard Lanvin.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et ses invités. Aujourd'hui, deux acteurs, Gérard Lanvin et Olivier Machal.
Olivier Machal, Gérard Lanvin. Alors, en fait, très tôt, l'un et l'autre, vous avez pris la tangente par rapport au milieu dans lequel vous avez grandi. Olivier Machal, vous êtes un fils de pâtissier chocolatier confiseur qui, très tôt, a préféré se nourrir de films policiers et de romans noirs plutôt que de choux à la crème, et qui rêvait dès l'âge de 10 ans d'être flic. Gérard Lanvin, vous avez quitté le cocon familial à seulement 17 ans pour faire le grand saut dans une vie plus aventureuse, le monde des forains. Alors, à votre avis, tous les garçons devraient expérimenter la vie en prenant leur envol comme ça, loin du paysage familial. C'est la seule façon de savoir vraiment qui on est à l'aube de l'âge adulte.
Je vais laisser parler Jean, mais moi, c'est-à-dire que tout petit, je rêvais déjà d'être bûcheron, ou d'être pompier, ou de partir...
Mais pas confiseur, pâtissier.
Non, je voulais pas. Je voyais mon père se tabasser de travail de 3h du matin. Il rentrait à 21h30, il s'endormait sur la table, le manteau entre les mains, devant sa soupe. Il était crevé, quoi, harassé de travail. Moi, je rêvais d'aventure, je rêvais de partir...
Mais vous n'avez pas choisi quand même le job le plus facile. Parce que, par exemple, votre père, il a réagi comment, Olivier Marchal, quand il a appris que son fils allait rejoindre la CRIM, la brigade criminelle, à l'âge de seulement 21 ans?
Il était fier, mon père. C'est-à-dire que c'était un amour parce qu'il ne m'a jamais obligé. Il aurait aimé que je reprenne la pâtisserie parce qu'en plus, c'était une affaire florissante. Il aurait adoré, évidemment. On est une famille de pâtissiers. Mes oncles sont pâtissiers, mes cousins sont pâtissiers. Donc, voilà, il aurait aimé, mais je voulais être flic. Et il m'a laissé faire mon choix. Et dès que je suis parti à l'école de police, il a vendu.
Ouais.
Il avait 50 ans,
ah oui,
il a tout vendu. Et puis après, il s'est occupé des maisons sur le bassin d'Arcachon. Il faisait les travaux dans les propriétés de familles aisées.
Ouais.
Et il s'occupait de tout avec sa Méhari. Voilà, il vivait...
C'est-à-dire que son fils, ne reprenant pas la suite, il s'est dit, allez,
ouais,
je laisse tout tomber.
Ouais.
Alors, vous, Gérard Lanvin, votre papa s'inquiétait, paraît-il, pour votre avenir. Il ignorait, par exemple, qu'au Puce de Saint-Ouen, des clients pas comme les autres, Martin Lamotte et Coluche, vous aideraient plus tard à trouver votre voie en vous prenant dans leur bande et puis en vous en découvrir peu à peu le goût du jeu. Acteur, vous n'avez vraiment jamais eu cette vocation. Vous ne songiez pas à jouer plus tard la comédie?
Non, mais déjà, au Puce, sur les marchés, on est acteur, hein. Donc
oui,
ça suffit.
Sûr,
en plus, à l'époque, on était, on vendait à la pièce qu'on achetait au kilo. Vous voyez, on faisait beaucoup de sous. Donc il y avait aucune raison de se dire, je ferais bien autre chose. Ça tombait très très fort.
Ouais.
Après, c'est les circonstances qui ont décidé des choses. Moi, Martin m'a dit un jour, voilà, on fait du café théâtre, on a acheté un endroit là. Ça, c'est rue Sainte-Croix de la Bantonnerie. Tu connais pas quelqu'un? Parce que il était assez client de la fripe américaine,
ouais.
Coluche aussi. Donc
ouais.
On échangeait pas mal quand il venait le samedi. Et il m'a dit, j'ai besoin d'un mec qui a un camion. Tu connais ça? J'ai dit, moi j'ai un camion. Pourquoi faire? Pour débarrasser des gravats.
Donc vous voulez dire que vous avez commencé dans le cinéma, vous avez débuté ainsi en fait parce que vous disposiez d'une camionnette au départ.
Voilà, c'est ça. Je suis allé rejoindre rue Sainte-Croix de la Bantonnerie. La vie en a décidé autrement. J'ai vendu tout mon matériel, toutes les fringues que j'avais en stock et j'ai fait des travaux avec Roland Giraud, Martin Lamotte, Anémone, Christine Dejoux et on a fabriqué ce café-théâtre qui s'appelle aujourd'hui le Point Virgule,
oui,
au Sainte-Croix de la Mantenerie, et qui est à l'identique de ce qu'on a construit il y a 30 ans.
C'est extraordinaire.
Et je suis devenu comédien comme ça.
Mais acteur. Alors, vous n'avez pas, certes, fait le conservatoire, mais vous dites, Gérard Lanvin, forain, c'est une grande école de tempérament.
Ouais,
donc
sûr.
Vous leur devez beaucoup aux forains.
Ah bah, de toute façon, c'est un milieu que j'aime, c'est des gens que j'aime, à qui je m'associe facilement. Voilà, ce milieu un peu particulier à la culture aussi de mon grand-père. Voilà, j'ai été élevé avec du Django Reinhardt.
Était forain, n'est-ce pas?
Mon grand-père était forain. Voilà, tous les étés, je partais en camion et en caravane, j'étais avec lui. Et,
donc à 17 ans, partir rejoindre les forains, c'était comme un retour aux sources?
C'est parce
que votre papa, lui, travaillait, je crois, dans l'immobilier.
Voilà, il était. Mon père s'occupait du service immobilier des 100 000 chemises, qui était une grosse boîte à l'époque. Voilà, mais mon grand-père, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les grands-parents. Il faut qu'ils vous fassent rêver parce que ce sont quand même des gens qui sont d'une génération différente de la vôtre. Donc, il faut qu'ils aient de la folie pour nous intéresser. Et moi, il m'a intéressé parce que je me levais tous les matins dans la même chambre, mais jamais au même endroit. Vous voyez, dès que j'ouvrais le store.
Est-ce que votre père a vécu assez longtemps pour voir la place que vous avez prise dans le cinéma français, Gérard Lanvin?
Non. Ma mère me disait toujours, si ton père était là, il serait fier de toi. Mais bon, voilà, j'ai pas eu cette émotion heureuse de pouvoir lui dire, sois tranquille, ça va le faire.
Alors, Olivier Marchal, vous avez voulu être flic un petit peu à cause de Melville, de Verneuil, de Corneau, de Brian de Palma, mais... Vous avez commencé, comme j'ai dit tout à l'heure, par la CRIM, ce qui est vraiment le plus violent, surtout quand on a 21 ans. Les faits divers, la barbarie humaine, les pieds dans le sang, l'odeur du sang sont devenus votre quotidien. Si vous aviez commencé à la brigade des stupes ou à celle de répression du banditisme, vous seriez peut-être encore flic?
Non,
c'est vous qui avez choisi la CRIM?
J'ai pas choisi la CRIM. Moi, je voulais aller au groupe de répression du banditisme. Mais je suis arrivé au SRPJ Versailles, gonflé d'orgueil et de fierté, j'avais la carte de police, mon arme c'était un Smith & Wesson modèle 19, j'avais appelé mon père depuis une cabine téléphonique, je lui ai dit « putain papa, ça y est, j'ai ma carte, j'ai mon flingue, je suis flic ». Il m'avait dit « je suis fier de toi mon fils ». Et après, on était affecté au SRPJ Versailles, on s'est pointé, je me rappelle, j'avais acheté un costume chez Daniel Echter à l'époque à crédit, hein, parce que j'avais pas de thunes, et on a été reçu l'après-midi par le patron de l'époque, qui nous a dit « vous voulez aller où ?» Moi j'ai dit « j'aimerais bien aller au groupe de répression du banditisme », l'autre il a dit « au stup », l'autre il a dit... Et en fait, il nous a mis comme voilà, à l'armée,
là,
quoi.
Là
tu veux aller là, mais je vais
demandé.
Te mettre à la crime.
Voilà.
Et donc, la crime, je voulais pas, surtout. C'était les cadavres, les crimes violents. Je savais que je m'y ferais pas, donc j'ai tenu 2 ans.
Ouais.
J'ai fait à peu près 100 de Maccabées en 2 ans, quoi. Donc, c'est assez spécial. J'ai connu l'IML à Paris, la morgue, tout ça, les autopsies, les enfants, les trucs. Mmh. Et quand on a 21 ans, ben, du coup, on prend 20 ans dans la gueule et puis, et je me suis dit, faut que je m'arrache, quoi. Donc, il y a eu un télégramme qui est passé pour la section antiterroriste. Ils recrutaient des jeunes célibataires. Donc, je venais de divorcer, ça tombait bien. Permis moto, j'avais le permis moto et je suis parti à la section antiterroriste.
La section antiterroriste. Alors, en tout flic, vous l'avez été pendant 12 ans, Olivier Marchal, à une époque où le métier n'était pas désavoué comme aujourd'hui, et puis à une époque où existait encore le milieu, celui des grands voyous. Vous dites d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de milieu, il n'y a que des racailles défoncées. La drogue a tout changé, il n'y a plus de règles, c'est ça ?
Bah, disons que j'ai des voyous qui ont fait partie de la French Connection, qui m'ont un peu dragué pour faire des films. Je les rends responsables de l'état de la société aujourd'hui. Ça veut dire la CAM a tout bousillé. La coke, je parle de la cocaïne, qui est une drogue violente, donc qui nous a amené à la situation d'aujourd'hui. À l'époque, voilà, il n'y avait pas tout ça encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, à Lyon, moi, mon ami Michel Néré, hein, qu'on ne va pas présenter, qui est vraiment notre pote à Gérard et moi, me disait que quand il était à Lyon, les mecs font des braquages de bijouterie pour un billet de 50 ou 100 euros pour piquer 2 montres et 3 gourmettes à la con. Et quand ils sortent de la bijouterie, ils sont donc défoncés à la coke, aux acides, au machin, à la vodka. Et quand ils sortent de la bijouterie, ils attendent les flics pour les filmer au portable. Ils calibrent les flics pendant qu'un de leurs potes filme la fusillade. Nous, quand on arrivait, les mecs se carapataient tout de suite. Là, ils attendent les flics pour les provoquer. Donc on est quand même aujourd'hui dans cet état d'esprit.
Olivier Marchal, vous vous souvenez du jour où vous avez rendu votre carte de flic et votre arme ?
Oui, je l'ai fait avec beaucoup d'émotion parce que, en plus, j'avais fait le stage du RAID en 1987. J'avais été reçu, on était 40, ils en prenaient 19. Je faisais partie des reçus. Et moi, je commençais à jouer au théâtre. J'étais en brigade de nuit à Paris.
Oui, parce que vous preniez des cours parallèlement
des cours
à toutes
journée,
ces vies-là.
Et je me suis dit, voilà, pendant une semaine, c'est vrai que ça m'a posé un cas de conscience. Je me suis dit, putain, le RAID, c'était l'élite, quoi. Et c'est vrai que j'avais 27 ans. Et je me suis dit, putain, voilà, le RAID, je fais quoi ?
C'est un
si
dilemme
je vais au
de
RAID,
choisir.
Je mets un terme à mon début de carrière d'apprenti comédien. Je commençais à jouer du Marivaux au théâtre, dans une compagnie et tout. J'ai refusé. Et c'est vrai que quand j'ai rendu ma carte, ce qui a été terrible, c'est de se sentir à poil, quoi. C'est-à-dire de se sentir non-flic. Quand on a été flic pendant 12 ans, qu'on a une carte et une arme, on se sent protégé, on se sent vainqueur. Et tout d'un coup, je me suis senti débarrassé de tout ça, de ce qui était mon identité, ma fierté, ma raison de vivre. Et je me suis dit, c'est un vrai choix que je fais. Donc, j'ai risqué. Bon, aujourd'hui, je regrette pas, mais... Il y a quand même, quand il y a eu les attentats au Bataclan, très honnêtement, comme j'habite à côté, que ma fille a failli y passer parce qu'elle était à 10 mètres de la fusillade et tout, j'ai une de mes
vous
filles...
Vous auriez aimé pouvoir reprendre du service.
Ah ben là, franchement, je me suis dit, putain, j'aurais aimé être flic là, pour pouvoir artiller là-dedans. Quoi. C'est franchement... Voilà, là, ça m'a manqué. Mais bon, c'est des petites pulsions comme ça. C'est tout. Maintenant, je suis fier d'être avec mon ami Gérard Lanvin qui commence à s'endormir derrière son micro. Mais parce qu'il est tard, là, c'est pour ça. Vous savez, il n'a pas fait sa sieste. Il a bu beaucoup de vin à midi et là, il s'endort. Donc,
Je suis entouré par vraiment deux sacrés personnages, deux sacrés tempéraments, aussi bien dans la vie vraie que sur grand écran. On se retrouve, allez, dans une poignée de secondes en compagnie d'Olivier Marchal et Gérard Lanvin.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La conversation entre Isabelle Morizet et ses invités se poursuit donc jusqu'à 16h sur Europe 1.
Je reçois cet après-midi Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Alors cher Gérard, personne vous découvrant en 77 ans, chevalier blanc, neuneu, matinée de Luis Mariano, et dans le film de Coluche, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, personne ne pouvait imaginer l'acteur de poids, j'ai envie de dire figure tellurique des polars que vous alliez devenir quelques années plus tard.
Merci.
Je pense entre autres au Gang des Lyonnais, donc réalisé par notre camarade ici présent, Olivier Marchal. Mais en fait, vous êtes devenu...
Son meilleur film.
Voilà. Vous êtes devenu une sorte de Lino Ventura beau gosse. Bon. Il y a un type de rôle au cinéma pour lequel il ne sert à rien d'aller au conservatoire.
Tous ? Ça sert à rien, le conservatoire, sauf à ceux qui veulent
il
y
a
aller.
Toujours, il a toujours des réponses.
Non,
cash,
mais je veux dire,
Gérard.
On n'a pas besoin d'apprendre une personnalité, on l'a ou on ne l'a pas. Après, il y a les acteurs, il y a les comédiens, ce n'est pas les mêmes...
Mais on peut avoir
mêmes...
une personnalité très forte, très chargée dans la vie vraie, et ne pas forcément savoir parler juste devant la caméra.
Si. Tous ceux qui ont de la grosse personnalité sont des acteurs. Les autres sont des comédiens, donc les comédiens, ça doit apprendre à se déplacer dans l'espace, ça doit apprendre à jouer une marguerite pour se rassurer, un teckel, s'ils veulent la voyer.
Vous parlez de l'acteur studio, de tout
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, et puis il y en a d'autres qui arrivent avec leur énergie, leur personnalité, leur vie derrière. Moi, j'ai commencé ce travail-là, j'avais déjà vécu pas mal, hein. J'avais 30 ans passé. Donc on se forge un état d'esprit, une façon d'être, une façon de bouger, avec les expériences d'avant. Et ça, parfois, quand on vous demande de jouer au cinéma par hasard, comme ça m'est arrivé pour Extérieur Nuit, on se sert de votre originalité.
Gabin, Ventura offraient à la caméra leur vécu, leur gueule, leur tempérament, donc vous faites pareil. Vous n'avez jamais pris de cours.
Jamais, non.
Jamais.
Il aurait dû.
Mais quand je vois ce que ça donne sur des acteurs comme Olivier, je me dis,
c'était pas
du tout utile. Non, ça les bousille,
Malheureux. Je reviens à Lino Ventura, Gérard Lanvin. Ouais. Une vraie amitié s'est tissée avec Lino au cours des années 80, malgré la grande différence d'âge qu'il y avait entre vous, puisque Lino Ventura, et pour ceux qui l'ignorent, est né à Parme, en Italie, en 1919. Comment vous êtes rencontrés et de quoi nourrissait ce lien? Ventura a vu en vous une espèce de fils de cinéma, c'est ça?
Pas du tout au départ, non. C'est Fechner qui nous a fait nous rencontrer parce que mon pote Bernard Giraudot avait tourné un film avec Lino. Et Lino avait vu Les Spécialistes et donc avait voulu me rencontrer. Comme Fechner était quelqu'un qui savait faire... les liaisons entre les gens. Après avoir fait effectivement Marche à l'ombre et Les Spécialistes, j'ai rencontré Lino. Lino, on a déjeuné ensemble, c'était un bon vivant comme l'est Olivier. Et comme je le suis, on aimait la vie. Et puis le vin, et tout ça a fait que dans une émotion heureuse, un repas, on a décidé de faire un film ensemble. On n'a jamais trouvé ce film, bien sûr. Et donc le problème, c'est qu'on s'est fréquenté pas mal parce que j'allais à Saint-Cloud chez lui souvent. Et puis, il était forain d'origine aussi, Lino. Donc, on avait ce point commun ensemble. Et puis, je sais pas, il m'a bien aimé. Et moi, j'étais très heureux de le voir, d'aller faire des courses avec lui. Et j'ai adopté une attitude par rapport à ce que je l'ai vu faire dans la rue avec les gens. Il était très respecté. Et il était aussi très populaire. Donc, j'ai vu une attitude qui me plaisait bien et j'ai adopté cette attitude. Donc, c'est en ça, peut-être, que je peux avoir un lien avec Lino au niveau de la ressemblance. C'est la façon de me comporter dans le civil, en faisant un métier un peu particulier qui peut parfois être débordant pour le coup. Si les gens vous trouvent trop accessible, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je vois ce que vous voulez dire.
Patrick !
Voilà, à un moment, vous faites déborder, même en bouffant une pizza, c'est compliqué.
Alors, ce lien avec Lino Ventura, bon, les liens, ils sont absolument évidents entre vous deux. Olivier Marchal et Gérard Lanvin, on parle toujours de la fameuse famille du cinéma, je ne sais pas si elle existe réellement, mais il y a, voilà, on a la réponse, mais il y a des amitiés électives comme ça sur des repères communs, Lino Ventura, Gérard Lanvin, Olivier Marchal. Alors, je pose la question, c'est à cause du cinéma que vous êtes devenu flic, mais c'est parce que vous étiez flic que vous avez pu faire, en fait, du cinéma, Olivier Marchal?
Disons que j'ai commencé à écrire très vite des nouvelles après un scénario que j'ai fait tourner pendant 7 ans et que j'ai vendu, qui s'appelait Des flics sans importance. C'était où je présentais les flics, on était encore resté aux flics, la guerre des polices, la balance, des mecs virils et tout ça. Et moi, je parlais de flics qui picolent, qui pleurent, qui divorcent et tout ça. Je parlais
parce que
de,
vous en étiez
de
un.
Ma vie, voilà, et puis de mes copains, quoi. Voilà. Et donc,
tout a commencé pour vous par l'écriture, en fait.
Exactement. Donc, je prenais des cours, je jouais au théâtre, mais je gagnais pas ma vie avec ça. C'est l'écriture qui m'a permis de commencer à gagner de l'argent. Et puis après, je me suis vendu sur les castings, les polars et tout. Je disais,
alors
écoutez,
comment on se vend quand on a été pendant 12 ans flic?
Je passais les essais, puis je disais en plus, écoutez, il se trouve que je suis aussi un ancien flic, donc j'ai été pris souvent grâce à ça.
Alors, Olivier Machal.
Pas pour mon talent, alors que Gérard n'a été pris que pour,
son talent.
Voilà, c'est tout.
Bon, en tout cas, être flic au cinéma.
Ouais, je, t'inquiète pas, Gérard.
Non, c'est bien de le dire, de reconnaître, ouais, évidemment.
C'est... T'as beaucoup de talent, Gérard.
Je vais, merci. Je vais essayer de me glisser comme ça, comme je peux. Être flic au cinéma, bon, quand on dit couper, bah, les morts se relèvent. Ça fait toute la différence. En fait, est-ce que vous exorcisez votre vie d'avant? C'est ce que pense Daniel Auteuil, hein, que vous avez fait tourner dans 36 Quai des Orfèvres et puis dans MR 73.
Voilà. J'avoue qu'MR 73, bon, ce film a été très très noir, très violent, très, parce que c'est une affaire qui m'a touché personnellement, c'est l'affaire qui m'a fait quitter la police, qui a fait de moi, je pense, l'homme porté sur la boisson, j'ai été après et tout, c'est, j'ai vécu ce drame, cette horreur en direct, je me suis dit, ce qui arrive là, ça peut arriver à ma famille, à mes enfants, à tout le monde. Ça m'a vraiment profondément affecté et j'ai écrit ce film, mais ça m'a pas permis d'exorciser, non. C'est pas, c'est une façon d'adoucir un petit peu les peurs et les angoisses, et mais ça ne règle aucun problème.
Quand on a traversé cette villa de flics et qu'on a vraiment été le spectateur tristement privilégié de ce que peut provoquer la barbarie humaine, rien ne peut après être consolant.
Rien du tout, non. La bibine de temps en temps, moi les copains, puis le métier que je fais, quoi. C'est-à-dire sur un plateau, je suis en fuite, moi je travaille énormément, j'arrête pas, parce que je fuis. Ouais, ça me,
donc
ce
ceux qui
me
disent que l'écriture et le cinéma vous ont sauvé, ne disent pas tout à fait vrai.
Non, ça m'a permis de vivre une autre vie, quoi, qui me permet de pas sombrer. Voilà, je suis un bon vivant, moi, Gérard, il me connaît, j'adore les potes, la bouffe, picoler, les copains, rigoler, les tourner, mais c'est vrai que quand je suis tout seul la nuit, que je me réveille, je suis insomniaque. Je vis avec ça, quoi, donc mais il n'y a que moi qui sais, quoi. Voilà, je suis allé voir des psys, on m'a tout fait, les tambourins dans les oreilles, le machin, la résilience et les trucs, j'arrive pas à me lâcher, mais c'est des images qui sont en moi. Et c'est ce qui fait que, je sais pas, alors, ça donne la profondeur à mon cinéma, certainement. On aime ou n'aime pas ce que je fais. Mais en tout cas, la profondeur dans mon cinéma, il y en a. Mais après, moi, ça règle aucun problème. Je suis toujours malheureux, quoi. Je suis un pessimiste joyeux, quoi. Il faut pas faire chier les autres avec nos problèmes. Mais je suis angoissé, quoi. Je suis pas bien dans ma vie. Vous n'avez pas pleuré, Gérard, t'as une larme, je vois une larme, non. Bois un coup, Gérard, ça va passer. Bah.
Pessimiste joyeux.
Je t'aime quand même.
Pessimiste joyeux, vient de dire Olivier Marchal.
C'est vrai, c'est ça.
C'est ça, Gérard.
Olivier, si c'était de la musique, ce serait du blues et du rock'n'roll. C'est ça le côté intéressant d'Olivier, c'est qu'il peut aller dans le blues, c'est-à-dire avoir ces moments, je dirais pas de détresse, mais ces moments de pessimisme total avec tout d'un coup le rebond et tout d'un coup il vous remet les amplis, il vous remet la chose en route, quoi. C'est un garçon, en cela on l'aime parce qu'il a ses deux côtés. Parce que être toujours de la même sorte, c'est chiant pour tout le monde.
Je suis entouré de deux sacrés lascars, c'est vraiment formidable. On est gâtés cet après-midi, on se balade en compagnie d'Olivier Marchal, de Gérard Lanvin. On se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Autre duo à l'écran, cette fois, les invités d'Isabelle Morizet réunis dans une comédie familiale qui est sortie en salle ce mercredi.
La bonne raison d'aller au cinéma ce week-end, c'est Papy Sitter, la nouvelle comédie franchement réussie de Philippe Guillard qui réunit Gérard Lanvin et Olivier Marchal cet après-midi, mes invités. Alors, cher Gérard, cher Olivier, depuis 2011, l'année donc des Lyonnais, j'aime bien dire le gang des Lyonnais et l'année du fils à Joe, non seulement vous savez que vous êtes fait pour faire des films ensemble, mais également pour vous retrouver dans la vie vraie, à boire des vignes entières, selon votre formule. C'est presque ce que vous faites là pendant
c'est
l'émission.
C'est la formule de Gérard, ça.
Dommage que ce ne soit pas filmé.
Vignes, ouais, c'est
voilà, refaire le monde avec vos repères, vos valeurs communes. Mais quand vous n'êtes pas réunis, j'aimerais savoir comment vous vivez les fins de tournage, parce que tout le monde s'envole et on ne sait jamais si on va se retrouver. Vous vivez ça comment ?
Parfois c'est tant mieux.
Parfois c'est tant mieux, c'est vrai.
Nous on sait qu'on va se retrouver, nous on se voit souvent quand même.
Mais c'est pour ça que je pose la question, quand vous ne tournez pas ensemble, en général, parce que par exemple vous avez tourné avec Nicole Garcia, vous dites devoir beaucoup à Nicole Garcia, effectivement ça vous a valu un César, ce rôle dans Le Fils Préféré. Vous auriez aimé pouvoir continuer de tourner avec Nicole Garcia, ça ne s'est pas fait. Il y a une espèce de mélancolie à cela ?
Non, il y a une compréhension de ma part. Quand on ne peut pas obliger quelqu'un à écrire un film pour vous, il a l'intention de l'écrire ou pas. Donc à partir de là, c'est des envies qui viennent aussi. Nous, on travaille suivant le désir des autres. Nicole a écrit des films dont elle avait l'envie et pas forcément des rôles pour moi dedans. Ça, je le comprends tout à fait. J'aurais aimé retravailler avec Agnès Jaoui comme metteur en scène. Les femmes sont très importantes dans mon histoire.
Qui vous a fait également tourner, ça vous a valu un César donc pour le deuxième mois. Alors, puisqu'on parle des Césars, Gérard Lanvin, il y a 8 jours, s'est réuni le monde du cinéma pour remettre les fameuses statuettes. Bon, on vient de dire que vous avez eu 2 Césars. Vous n'êtes allé chercher ni l'un ni l'autre. Pourquoi refuser de se plier à une cérémonie qu'on peut prendre comme ça, comme un rituel après tout, et pas davantage ?
Parce qu'on n'est pas... moi, je ne revendique pas l'esprit de compétition dans ce métier, puisque mon parcours, même avec les duos, prouve que je suis dans l'échange. Je ne suis pas dans l'idée du meilleur. C'est un mot, meilleur. Voilà. Donc, le meilleur acteur, meilleur second rôle, meilleur machin, ça m'ennuie un peu. C'est une soirée... quand on le constate de visu, qui est une soirée éprouvante pour tout le monde, parce que c'est une compétition, et dans cette compétition, on n'a pas l'esprit à la compétition en France. On n'aime pas les vainqueurs, déjà. Et puis, il y a un moment où, si vous voulez, cette compétition ne se fait pas dans les bonnes règles. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des soucis avec tout ça.
Oui.
Donc, quand les mecs n'ont pas le César, parce qu'ils étaient prétendants à ça... on voit souvent des gens qui ne vont pas continuer la soirée, c'est-à-dire ils ne vont pas au Fouquet's, dîner. Donc toutes ces mondanités-là m'ennuient. Moi, je ne suis pas fabriqué pour les mondanités. Je suis
Mais
quelqu'un...
alors vous qui avez récolté de César et qui n'êtes pas allé les chercher, vous pensez que le monde du cinéma vous en a un peu voulu, justement, de cette
cinéma...
mise à distance ?
Oui, peut-être, j'en sais rien, je m'en fous. Le problème n'est pas là. Moi, je fais des films suffisamment pour être heureux. J'ai une famille... avec laquelle je vis des moments forts, parce que c'est dans la musique en permanence. Moi, je suis dans le rock'n'roll avec mon fils, dans le blues, je m'éclate avec lui, je m'éclate avec ma famille, si vous voulez, mais le problème, c'est que l'intention de faire des films ne vient que de ceux qui me désirent. Donc, je ne vais pas aller, moi, m'obliger à faire dans des circonstances qui font que vous avez des gens qui sont là par nécessité, qui rencontrent des gens qui sont là par obligation. Y a un moment, je n'ai pas besoin de séduire tout le monde et les gens du cinéma qui sont dans l'élitisme, si vous voulez, et qui ne vous appellent pas pour faire des films intéressants et qui pourraient être heureux à faire aussi. Tant pis, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est l'exactitude que j'ai quand je travaille avec des gens qui me correspondent, qui correspondent au fait... qu'ensemble, on va être bien à l'exactitude que ça va provoquer. C'est
voilà,
ce qui se passe.
Et travaille ensemble avec justement Olivier Marchal dans Papy Sitter. Je me retourne vers Olivier.
Oh,
J'aimerais bien, il serait temps.
Il n'y en a que pour Gérard Lanvin, j'en ai marre. Moi. J'ai quitté le studio. Franchement, j'en ai marre.
Tes histoires de vie sont tellement
chères. Olivier, oui, les yeux dans les yeux. Est-ce que les films dont le public vous parle le plus sont ceux que vous avez réalisés? Vous vous rendez compte de ce que je suis obligée de faire pour capter son attention? Voilà. Est-ce que les films dont le public vous parle le plus sont ceux que vous avez réalisés dans le milieu de votre vie d'avant? C'est-à-dire, par exemple, 36 Quai des Orfèvres, MR73, Les Lyonnais, Carbone, ou encore la série Braco.
Oui.
Est-ce que, parce que vous avez aussi tourné dans des comédies, mais on vous parle plus souvent de vos polars?
Oui. Bah parce que j'ai la chance, c'est avec aucune prétention que je dis ça, d'être reconnu un peu comme le mec qui a fait revivre le polar en France. Donc j'ai pas fait exprès. Hein. 36 Quai des Orfèvres, tout le monde pariait en disant que ça allait faire 300 000 entrées. J'avais pris la carte vermeille du cinéma français. Il y avait des paris quand même dans le milieu du cinéma. Il disait le flic, il va aller se coucher avec ses 300 000 entrées. Il a pris les 2 vioques du Cinoche de Pardieu Auteuil. On a fait 2,5 millions, donc je leur ai mis dans le cul. Et je suis très content. Et c'est le public qui est avec nous. Je rejoins Gérard là-dessus parce que moi, voilà, quand je vois la tournée qu'on fait avec Papy Sitter, on a fait 20 villes où les salles sont pleines, où il y a les grands-parents, les parents, les enfants des parents, les petits-enfants qui viennent et qui ont des sourires jusque-là. Ça nous suffit, non ? Voilà. Après le reste.
Voilà. Papy Sitter, il y a vraiment tous les ingrédients pour que le succès soit à la hauteur de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Hein ?
Oh, souhaitons-le pour Philippe Guillard, parce qu'il le mérite, Philippe.
Il le mérite. Alors, parlons des flics aujourd'hui. Les flics, Olivier Marchal, aujourd'hui, ils sont fliqués avant les voyous. Mais il n'y a pas de police efficace sans flics un peu borderline. Non. Comme il n'y a pas de bon polar, par exemple, sans flics un peu ripoux.
Bien sûr, ça fait partie de l'arsenal du... Si on fait du cinéma, c'est regarder tous les films de Lumet, il y a toujours Le Prince de New York, Serpico, tout, il n'y a que des ripoux. Voilà, mais ça existe. Alors évidemment, on est au cinéma, encore une fois. 98% de la population policière, c'est que des mecs bien, franchement. Enfin, des mecs qui en chient, des mecs plus ou moins, mais il y avait des ripoux, il y en a très très peu.
Olivier Marchal, 36 Quai des Orfèvres et Les Lyonnais devaient être adaptés par Hollywood.
Ouais.
Ça s'est fait, ça va se faire.
Ça devait. Alors,
ça devait.
Robert De Niro avait bloqué les droits de 36 Quai des Orfèvres.
Je
devais le rencontrer à New York. Je suis allé à New York pour l'encontrer, sauf que le jour où je devais l'encontrer, son assistante a appelé en disant qu'il avait une gastro, comme quoi Robert De Niro a des gastro aussi, comme tout le monde.
C'est possible.
Et il y a eu un remake coréen de 36 Quai des Orfèvres. J'ai pas vu les images, j'ai vu la bande-annonce qui déboîte, mais c'est le cinéma coréen, quoi. C'est ultra violent. Et Les Lyonnais, ça devait être un film avec Liam Neeson dans le rôle de Gérard et Gary Oldman dans le rôle de Checky Cario.
Et alors ?
Eh ben, ça s'est pas fait.
Et pour quelle raison ?
Ah ben j'en sais rien, parce qu'on ne nous dit rien, vous savez. Moi je reste à ma place, j'étais hyper
content. C'est-à-dire
que
le créateur d'un film comme ça, réalisateur, qui a tout écrit, si l'adaptation est dans les tuyaux, mais que finalement ça échoue, on ne lui dit pas pour quelle raison ?
Non, mais je ne savais même pas qu'il y avait un remake, je l'ai appris par la bande.
J'ai eu la même chose avec Le Prix du Danger que j'avais fait. Schwarzenegger a pris les droits sans les demander. Il a fait un film futuriste, lui, par rapport au Prix du Danger, qui était un film contemporain, et sur un jeu vidéo, La mort en direct, en fait. Et il a eu un procès que le producteur français a gagné, parce qu'il a piqué l'idée sans la demander.
Incroyable.
Et il a fait le film, le mec.
Incroyable.
Pas de problème.
Vous faites des métiers aussi passionnants que complexes, messieurs. On retrouve tout de suite Olivier Marchal et Gérard Lanvin.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Une heure pour remonter le fil des souvenirs et mettre un coup de projecteur sur une actu. On retrouve Isabelle Morizet et ses invités pour la suite de cette conversation à trois voix.
Mes invités sont tellement épatants que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Aujourd'hui, je reçois Olivier Marchal et Gérard Lanvin, absolument épatants dans la nouvelle comédie de Philippe Guillard, Papy Sitter. On est réunis cet après-midi vraiment pour se dire les choses cash. Alors, Gérard Lanvin, vous avouez le théâtre, c'est pas du tout mon truc. Jouer tous les jours la même émotion pendant 6 mois, ça m'intéresse pas du tout. En fait, vous n'êtes pas fabriqué, vous n'êtes pas constitué pour le théâtre, c'est ça ?
Je pense pas l'être, effectivement. Ça m'ennuie, au bout d'un moment, ça m'ennuie
mais
d'aller tous les soirs
quand même
au même endroit. Enfin, moi, je suis
en montant
un homme
sur
de
scène au Café Théâtre, à l'époque de Romain Bouteille, de Coluche.
Oui, mais ça, c'était autre chose. C'était des troupes, c'était une vie à l'intérieur d'un endroit qu'on avait fabriqué. On participait à tout. À faire du thé à la menthe, à recevoir les clients. On était ensemble tous. Là, le théâtre, vous allez dans des endroits qui vous accueillent. Vous êtes dans des loges tristes, vous attendez que le rideau se lève, vous jouez, vous saluez, et puis vous rentrez chez vous ou pas.
Vous n'aimez pas ce timing ?
Non, c'est tous les soirs la même chose.
Vous y allez au théâtre rarement, Gérard Lanvin ?
Je vais jamais au théâtre, non.
Jamais ?
Non. J'ai été voir Olivier jouer, parce que je voulais voir ce qu'il faisait, s'il arrivait à se débrouiller sans moi. Mais,
et alors, convaincu ?
Oui, pas mal. On a vite mal au cul, en plus.
J'ai été nominé au Molière, je le répète, je tiens le signaler quand même, pas toi, jamais.
C'est vrai, moi, mais il n'y a aucune raison qu'il soit, okay. Je ne fais pas de théâtre.
Non, mais je le dis comme ça, je le dis en passant.
C'est fort. Alors justement, contrairement à vous, Gérard Lanvin, Olivier Marchal, lui, il adore jouer au théâtre. Alors Olivier, vous avez joué avec Pluie d'enfer, plus récemment avec Nénès, qui dénonçait tous les maux de notre société. Bon, alors je voudrais savoir si vous vous sentez capable de trouver des raisons qui puissent convaincre Gérard de monter un jour sur scène, ce qu'il n'a pas fait depuis ses tout débuts au Café Théâtre, et peut-être, pourquoi pas, sur scène ensemble.
Mais parce que c'est notre amitié qui va le convaincre. Moi, Gérard, je sais que...
Il y a des projets ?
Demain, je lui propose une pièce. Je voudrais faire une comédie de boulevard, moi, avec lui. Et je sais qu'il va venir.
Mais que vous écririez ?
Non, on va trouver. Vous savez, une pièce comme Double Mixte, qui a été jouée par Christian Clavier et Gérard Rinaldi, il y a 20 ans, qui est une pièce incroyable, mon drôle. J'ai jamais autant ri de ma vie. Je pense que lui et moi, on serait super là-dedans.
Mais il faudrait qu'il renonce pendant, allez, on va dire à peu près 6 mois, à son coin de paradis marocain.
Non, son rythme de vie, parce que c'est un petit, voilà, c'est un mec qui déborde de fric et tout. Il faudra qu'il fasse un effort.
Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire faire à Paris une vingtaine de représentations pour caler les choses et partir directement dans un autobus, enfin dans un car. Et s'éclater en province, aller voir des gens qui nous aiment.
Voilà, échapper en fait à la même
à la
loge, soir après soir,
voilà.
Et puis à la routine parisienne.
Oui, oui, absolument. Mais moi, je ne suis pas du tout dans l'histoire de Paris. Quoi. Ma vie est ailleurs.
Alors justement,
longtemps.
Votre vie est ailleurs. Vous viviez très heureux à la Baule, entre la mer et la campagne, avec des chevaux, des vaches, dans l'air iodé de la Loire-Atlantique.
Exact,
et puis voilà que vous avez fait vos valises pour le Maroc. Pourquoi ?
Parce que les gens sont accueillants, parce que c'est un pays, quand vous vous levez le matin, il fait bleu, parce que j'ai l'âge où on aime avoir chaud le matin. C'est souvent se levant, vous voyez, plutôt que de se prendre la
Olivier
pluie sur
Marshall
la gueule.
Olivier Marshall hurle de rire.
Non, non, mais c'est ça.
Oh, mon Dieu.
C'est ça, c'est tout d'un coup avoir autour de vous la paix, le calme et aussi des sourires et de la bonne humeur, et les Marocains en cela.
Mais alors,
sont
si on creuse
là,
un petit peu, elle ressemble à quoi la vie de Gérard Lanvin quand il ne fait pas l'acteur et qu'il est justement sur ces terres marocaines? Une journée type, c'est quoi?
Le bullage. C'est bullage.
Virtuose en bullage.
C'est comme font la plupart des gens qui ont le temps de vivre des choses. C'est-à-dire, on décide de prendre une bagnole, d'aller dans le désert, on va dans le désert. On décide d'aller en ville et on va en ville. Moi, j'habite loin de Marrakech, une trentaine de kilomètres. Donc, c'est des sorties. On se fait des sorties parfois dans des endroits magiques. Il y a plein d'endroits magnifiques au Maroc et ça vaut la peine, la lumière, enfin toutes ces choses qui sont, pour moi, importantes. Moi, je suis quelqu'un qui aime pisser dehors, sous les étoiles ou le matin, sous le ciel bleu.
Mais là, c'est sous un palmier.
Là, le mythe s'effondre.
Je t'imagine
en train de pisser dehors.
Est-ce que vous savez...
Toi, tu pisses où, par exemple? Explique-nous.
Ça va être les scoops. Gérard Lanvin, est-ce que vous avez invité votre pote Olive, ici présent Olivier Marshall, à venir chez vous, sur vos terres marocaines?
Je l'ai invité, mais on s'est vu au Maroc déjà. Voilà. Après, il vient quand il veut. Il est le bienvenu. Il le sait. Il n'y a pas de souci.
Bon, vous Olivier Marshall, qui êtes un hyperactif, contrairement à Gérard Lanvin, qui se présente comme un virtuose du bullage. Qu'est-ce qui vous défatigue du cinéma, de l'écriture, de la réalisation et de la recherche permanente de financement qu'il faut pour accoucher d'un film? Qu'est-ce qui vous défatigue de tout ça?
Ah, bonne question. Je ne sais pas.
Vous bossez tout le temps.
Je travaille tout le temps.
C'est une allure.
C'est vrai.
Tout le temps. Et de temps en temps,
je suis un petit peu avec
mes enfants. Je bosse tout le temps. Là, je fais 3-4 choses en même temps. Je peux pas.
Elle cache quoi, cette frénésie? Quelle peur?
Je m'échappe de moi-même. Voilà, ce métier me permet d'être quelqu'un d'autre. Quand je vois mon nom sur les affiches, je dis c'est pas moi. C'est-à-dire, je vois un film de Olivier Marshall, je me dis c'est l'autre que j'aime, mais c'est pas moi. Voilà, c'est tout. Mais vous comprenez ce que je veux dire.
Mais totalement.
Voilà, vous avez été une grosse resta de la chanson et tout ça. Non, mais c'est vrai. Mm-hmm. Et c'est pas nous, quoi. Et en même temps, je suis fier de ça, mais c'est pas moi. Donc, je cours après ça. Je continue pour qu'il y ait le monsieur, là, Olivier Marshall, qui soit marqué sur l'affiche. Voilà, idéal.
Ouais.
Quand les gens me croisent dans la rue, ils me disent « Putain, on vous adore, vous êtes un mec bien. » C'est génial.
Là, c'est vous. Et là, je confirme.
Non, mais c'est extraordinaire, mais je suis pas un mec bien. Je dis non, je suis moins pire que les autres. Mais je suis pas un mec bien. J'ai mes tares, j'ai mes défauts, j'ai mes déviances. Si vous saviez, si vous étiez dans ma tête, c'est horrible. Mais bon, après, tout va bien.
Il arrive très bien à jongler avec le grand bordel.
Ouais,
bon,
ouais.
Cher Olivier Marshall, en fait, papy-sitter dont vous partagez l'affiche en tant qu'acteur avec Gérard, mais sans avoir touché ni à la réalisation, ni à la production, ça a été finalement pour vous une récréation très savoureuse.
Ah ben, de toute façon, déjà, je jouais avec Gérard pendant 2 mois dans le sud-ouest, septembre-octobre, l'été indien,
il fait
beau.
Ah oui, la lumière est sublime
dans
le film. Hein.
C'est avec Philippe
Billard.
Et
belle plage. Hein.
Voilà, exactement. Des rôles pareils, qui sont des rôles... On est tombé amoureux de nos personnages, c'est-à-dire que c'est rare. Et Gérard, pareil, puis je le regardais jouer, je me disais, tiens, pour une fois, il est subtil, l'envers, il arrive à trouver un truc. Ouais, mais ça doit être l'âge, il devient bon à 70 ans. Et donc, c'était un plaisir de jouer avec lui.
Et donc, Gérard répond tout de suite.
Je lui dis, j'avais un patron. Dans les Lyonnais, j'avais personne. Il n'y avait pas de patron, Olivier Marshall.
15 ans, formidable. On fait une pause, on retrouve tout de suite Olivier Marshall, Gérard Lanvin.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Europe 1. 15h51, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie et place à la dernière partie de l'entretien d'Isabelle Morizet avec Olivier Marchal et Gérard Lanvin, invités à l'occasion de leur actu, hein, puisqu'ils sont à l'affiche de Papy Sitar.
Olivier Marchal, Gérard Lanvin. Bon, depuis presque une heure, je suis cerné par les meilleurs potes du monde, dont la complicité a permis de tourner des polars puissants comme Les Lyonnais ou Bronx, qui sortira dans quelques mois, mais aussi des comédies bien troussées et rafraîchissantes comme Papy Sitar, qui est à l'affiche depuis mercredi. Or, j'ai appris que cette amitié, aujourd'hui indéfectible, depuis 10 ans maintenant, donc, elle a commencé quand même par une petite bouderie. Une bouderie qui concerne 36 quais des Orfèvres. En fait, vous êtes raté à cette époque-là? Il y a vraiment eu une bouderie?
Alors non, on va la faire brève. Allez. C'est que Gérard était acteur sur une série pour Hamster Productions, une série qui était merdique. Et moi, j'avais été engagé comme auteur pour travailler là-dessus. Donc tout le monde était persuadé, Gérard et les auteurs, que c'était pas bien, mais on le faisait pour les sous. Donc, on a eu une embrouille à ce moment-là, et j'en ai voulu parce que...
Vous êtes rancunier, Olivier,
il rejetait les scénarios à juste titre, hein, parce que nous, on savait qu'on écrivait
Gérard.
De la merde, lui, il savait qu'il faisait de la merde, il était malheureux, il nous envoyait chier. Sauf que moi, à l'époque, je sortais à peine des flics et j'étais jeune scénariste, et quand j'ai annoncé 36 quais des Orfèvres, c'est vrai que Gérard m'a appelé à la maison en me disant qu'il aimerait bien tourner avec moi, et j'étais tellement rancunier.
Et ce voyou-là ne vous a pas pris,
Et je lui ai dit oui, on se rappellera, je ne l'ai jamais rappelé. Et donc c'est vrai qu'on se tirait la gueule, et que c'est grâce à Philippe Guillard qui nous a dit, putain, arrêtez les deux, parce que vous êtes vraiment fait pour vous entendre.
Voilà, sur l'aventure du fils à Joe.
Exactement.
Mmh. Mais c'est extraordinaire, ça, c'est quand même insensé. Ouais. J'ai remarqué que les amitiés masculines qui démarrent après une fâcherie, une bouderie, sont souvent, par la suite, absolument inoxydables. Donc vous en êtes la preuve.
J'espère.
Oui, parce qu'on préfère être pote que fâché. On a vécu les deux trucs, donc voilà.
Bon, il est temps de parler de Bronx, que vous avez réalisé, Olivier Marchal, et qui met en scène à Marseille une rivalité entre les services de police face à une guerre de clans entre Arabes et Corses. On retrouve l'ambiance de 36 quais des Orfèvres et de Braco, mais sous un soleil de feu, c'est ça? Avec, bien sûr, Gérard.
L'inénarrable Gérard Lanvin, bien sûr.
Non, et Jean Reno.
Gérard m'a fait l'amitié il a une participation, il fait un vieux voyou, il a trois très belles séquences dans le film. Jean Reno, pareil, ils sont venus, je pense, aussi par amitié pour moi. Et après, voilà, j'ai un casting, c'est un film assez sexy qui se passe à Marseille, il fait beau.
Pourquoi dites-vous sexy?
Parce que je voulais casser un peu avec les films très dark que j'ai fait et tout. Alors ça reste un film violent, ça reste un film où il y a de l'action, mais c'est sous le soleil de Marseille, il y a des beaux décors, il y a des belles filles, il y a des bateaux, il y a des go-fast en Zodiac, il y a la mer, il y a des beaux mecs.
Ah oui, le go-fast en Zodiac,
et puis voilà.
Sous le soleil, exactement, c'est plus sexy qu'en voiture.
Voilà, ça dépote, quoi.
Mais il paraît qu'avant que Canal lance le projet, les chaînes de télé rechignaient à vous suivre. Comment vous expliquez cette aberration?
Je n'ai aucune chaîne de télé en cofinancement, donc voilà. Mais c'est pas grave, hein. Quand je vous dis qu'on n'a pas la carte, on n'a pas la carte.
Non, mais
c'est
attendez,
pas grave.
Les Lyonnais, 36 quais des Orfèvres, toutes les séries que vous avez signées, bon, toutes les comédies aussi. Voilà.
Ouais, bien sûr.
Là, vous êtes en ce moment tous les deux réunis dans Papy Sitar. Bon, la vie va fort, elle est belle, et les chaînes
pas.
Ne suivent pas.
On se plaint pas, c'est pas grave. Vous savez, les chaînes, c'est pas les chaînes. Ce sont des personnes. Il y a une personne, notamment, qui s'occupe du cinéma à France 2, qui est une personne... odieuse, haineuse, aigrie, à laquelle j'ai eu affaire, qui m'a traité comme de la merde, alors que les Lyonnais, quand ça passe sur France 2, ça cartonne,
mais
les Rivières pourpres, ça cartonne, 36, quand ça passe, ça cartonne encore aujourd'hui, 15 ans après, ça fait des scores d'enfer.
Ouais.
Et voilà, c'est une personne qui règle ses comptes avec vous, parce qu'on n'est pas aimé, Gérard et moi, on est des espèces de bad guys, on est des mecs, on n'a pas la légitimité d'être encore à nos âges dans ce métier. Vous voyez ce que je veux dire?
Pour les papis, on cherchait du financement. Les mecs ont dit non, Lanvin, Marchal sont trop vieux.
Voilà.
On joue les papis.
Voilà.
C'est pas possible.
Ils ont un cerveau.
Oui.
Des cuits de toile cirée quand même.
Donc, nous, on en est là, quoi. Mais c'est pas grave. Nous, on a le public. Et c'est la plus belle des récompenses pour nous. On fait des entrées.
Attendez, vous faites des cartons d'audience à la télé. Hein. Bronx va sortir quand d'ailleurs? En septembre, c'est ça?
Oui, septembre. Août-septembre. Voilà,
août-septembre.
Ouais. Enfin,
avec Gérard Lanvin, avec Jean Reno, avec également Yannick Gautry.
Voilà, Yannick Gautry, Caris, David Bell, Stanislas Mérard, il y a Marshall, il y a Patrick Catalifo, il y a Moussa Mascri, Francis Renaud, il y a Claudia Cardinal. Voilà, il y a Ambre Pietri, il y a Erika Sainte, ma partenaire des Rivières Pourpres. Voilà, on a un très beau casting, quoi, franchement.
Et c'est magistral, ça donne envie.
J'espère. Ouais, j'espère que j'en oublie pas, Alain Figlard, enfin, il y a plein d'autres, quoi.
Non, moi j'ai vu des images, là, en synchro qu'on a fait, c'est top. C'est du lourd, c'est du lourd.
C'est du Marshall.
C'est
du Marshall, c'est formidable. Bon, ouais. En attendant... Sans flingue, sans Beretta, mais avec du tempérament, et ben vous êtes tous les deux à l'affiche de Papy Sitter. Excellente raison d'aller vraiment au cinéma ce week-end. Olivier Marshall, Gérard Lanvin, avant qu'on ne se quitte, j'ai quand même une question à vous poser qui ne me semble pas si farfelu que ça. Vous achetez quand un vignoble ensemble?
Le problème, c'est qu'on... il faut du temps, de par Dieu nous l'a prouvé. Nous, on aime le résultat du vignoble.
On aime quand il est déjà
dans la bouteille.
On pourrait acheter un bar avec Gérard.
Un bar, pas de problème.
Un bar, tous les deux, je pense qu'on cartonnerait. Mais après,
Le métier de vigneron, le métier d'homme de vin, c'est un métier colossal. Ouais. On est incapable de faire ça.
Et puis nous, on vous aime tellement sur les écrans, petit ou grand. Papy Sitter est à l'affiche. Bronx, c'est en septembre. C'était formidable, les garçons. Vous revenez bientôt,
super
émission. Dès qu'on peut.
Alors, je vous attends déjà.
Merci.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et Isabelle Morizet revient bien sûr le week-end prochain dès 15h sur Europe 1, en compagnie de deux nouveaux invités. Samedi, l'humoriste Chantal Latsou. Et dimanche, le réalisateur Patrice Lecomte. À suivre, l'équipe est sauvage de Mathieu Noël. Europe 1.